À la une ce midi, le rapport des trois députés sur la réforme des territoriales, la recherche d'un candidat pour lancer une nouvelle ressourcerie et enfin cette révélation de Jérémy Florès qui raconte son combat contre une tumeur au cerveau. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Avant de développer les titres, Lucie, cette information qui vient d'arriver.
Et oui, on vient d'apprendre que le parquet avait ouvert une enquête sur les soupçons de trafic de viande de tortue à Polynésie la première. Ce sont nos confrères de Tahiti Info qui avaient révélé cette information dans leur journal de lundi, racontant que ce sujet avait fait l'objet de questions très officielles en comité d'entreprise. Beaucoup s'étaient émus et inquiétés de savoir si ces informations étaient vraies. La vente ou la consommation de viande de tortue sont des délits. Et selon Tahiti Info, le patron de la chaîne, Jean-Philippe Lemay, avait reconnu en CE qu'il y avait bien eu une vente de viande de tortue à la station. Le parquet a donc ouvert une enquête sur cette affaire.
Et comme on vous le disait en une, le rapport sur la réforme des territoriales a été présenté à Paris.
Et les trois députés, Nicole Sanquer, Mériana Red-Arbelot et Moerani Frebo, avaient été missionnés en fin d'année dernière pour mener une mission flash sur ce mode de scrutin. Ils avaient enchaîné les auditions. L'objectif était d'identifier des pistes d'évolution sur lesquelles tout le monde serait d'accord pour faire évoluer le système électoral déterritorial. La dernière réforme date de 2011. À l'époque, il s'agissait de sortir de l'instabilité politique, d'où ce système avec un deuxième tour difficile d'accès et une prime majoritaire d'un tiers des sièges pour le parti vainqueur. Côté stabilité, ça marche. Côté débat démocratique, un peu moins. Les trois députés qui ont présenté leur rapport à Paris mercredi, cette nuit, donc heure de Tahiti, proposent donc de faire varier ces deux paramètres, Charles Irénée.
Oui, d'abord pour abaisser le seuil de qualification au deuxième tour. Il est de 12,5% aujourd'hui. Tous ceux qui sont en dessous, même s'ils ont recueilli plusieurs milliers de voix, se voient fermer les portes de Talaoï. Les élus, suivant leur bord, proposent d'abaisser ce seuil à 7 ou 10%. Ça n'est pas un gros sujet d'opposition. La prime majoritaire, en revanche, soulève beaucoup de débats. Elle représente 15 sièges de l'Assemblée aujourd'hui sur 57, un tiers du total. Donc, c'est beaucoup plus que dans la plupart des élections locales, en France ou même à l'étranger. Sans surprise, les petites formations veulent l'abaisser à 10 ou 17%. Les poids lourds politiques sont beaucoup plus réticent. Moté Brotherson est opposé à tout changement sur ce sujet. Édouard Fritsch en trouve la porte, mais insiste sur le besoin de majorité forte pour gouverner. Le rapport, lui, table sur une prime entre 20 et 25% et évoque même la possibilité d'une prime variable en fonction des résultats des élections.
Des avis très différents ont été exprimés pendant cette mission. Le Tavigny est resté sur sa ligne. Pas de réforme du statut tant que le dialogue de décolonisation n'est pas lancé. Le Tapoura, même s'il est engagé à soutenir la réforme du mode de scrutin au sein de l'Alliance Amuitato, traîne un peu des pieds. Le parti estime que ça devrait être fait après les territoriales de 2028. Le consensus ne sera jamais total, préviennent les rapporteurs. L'attente d'une unanimité est d'ailleurs un prétexte à l'inaction. Les trois députés ouvrent donc d'autres pistes de réflexion, Charlie.
Oui, beaucoup d'autres. On évoque dans ce rapport de nouveaux modes de rémunération des élus, l'idée d'un seuil minimal de moins de 30 ans sur les listes. On parle de mandat impératif, de vote électronique, de cumul des mandats ou de suffrage universel du président. Vous le savez, c'est quelque chose qui est demandé par Moté Brotherson, mais qui risque d'être difficile à faire passer constitutionnellement. Surtout, la mission Flash s'interroge sur le nombre d'élus à Talaoï. Beaucoup verraient bien le chiffre de 57 baisser à 45, voire même à une trentaine. Attention tout de même, ces changements ont de grosses implications sur la représentation des archipels. Le rapport se limite donc à inviter à poursuivre les discussions sur ce sujet.
Voilà un rapport présenté à l'Assemblée nationale donc et dont vous pouvez retrouver l'analyse complète sur notre site radio1.pf.
Le pays cherche un candidat pour une nouvelle ressourcerie.
Alors que celle de Mahina a fêté ses un an la semaine dernière, le pays a publié un appel à manifestation d'intérêt pour la création et la gestion d'une ressourcerie en Polynésie française. Un projet soutenu par la DIREN et le programme océanien de l'environnement qui dispose d'un budget d'environ 30 millions de francs. Une somme proposée donc un candidat pour lancer une ressourcerie. La gestion des déchets, c'est un enjeu majeur sur le territoire. Les importations continuent d'augmenter et les déchets avec. Même si aujourd'hui le tri existe, ça ne suffit pas. Et le pays a des objectifs clairs indiqués dans son schéma de prévention et de gestion des déchets. 20 ressourceries d'ici 2030 et une baisse de 30% des déchets enfouis. Cet appel à candidature pour une nouvelle ressourcerie, c'est un premier pas pour l'association Tiaï Fenua. C'est elle qui a lancé les ateliers de réparation et les premières ressourceries. On écoute sa directrice, Moya Pereire.
Cette AMI s'inscrit dans le cadre du STPGD, donc du schéma territorial de prévention et de gestion des déchets, dans lequel le pays avait, s'était déjà engagé à accompagner la création de 20 ressourceries d'ici 2030. Donc là, c'est la première étape.
Les candidats ont jusqu'au 18 août pour déposer leur dossier et le pays annoncera le ou les lauréats en novembre de cette année. Une réunion doit être organisée le 23 juillet pour informer d'éventuels porteurs de projets intéressés. Un appel à candidature pour une ressourcerie donc qui pourrait ouvrir l'année prochaine. Vu le timing, on a du mal à imaginer qu'il y en aura bien 20 dans 5 ans. Alors que pour l'association, les ressourceries sont la solution, surtout pour notre territoire constitué d'îles éloignées.
Pour nous, c'est une vraie réponse, surtout dans les îles éloignées. Le coût d'acheminement, aussi bien quand les objets arrivent sur l'île ou quand ils repartent, est très lourd à porter. Quand on reçoit une machine à laver qu'on a achetée sur papier-été, on paye le fret. Et quand on la rapatrie, si rapatriement il y a, tu payes de nouveau le transport bateau. Une machine à laver aujourd'hui est réparable. Donc, du coup, elle peut être valorisée sur l'île et redistribuée. Donc je vous laisse imaginer le coût gagné sur un appareil qu'on aurait valorisé sur place.
Une réponse environnementale, mais également sociale et économique, car ces structures créent des emplois locaux avec une préférence pour l'insertion professionnelle des personnes en difficulté. C'est donc d'une pierre trois coups. Et les candidats, donc on vous le disait, ont jusqu'au 18 août pour déposer leur dossier et le pays annoncera son choix en novembre de cette année.
Vous écoutez le journal de la rédaction et on vous parle maintenant de cet exercice militaire aux Marquises.
Après l'exercice grandeur nature sur le risque tsunami mené par les services de l'État hier, ce sont les militaires qui mettent le cap sur Nuku-Hiva, Wapo et Wahuka. Les habitants de la Terre des Hommes ont déjà eu droit aux alertes sur leur téléphone, aux sirènes et au déploiement de tous les services de secours. L'exercice reposait sur une supposition crédible, un séisme majeur à l'est des îles Tonga, dans une zone connue pour son activité sismique. Un événement de ce type peut générer un tsunami capable d'atteindre la Polynésie en moins de 3 heures. Et si ce sont les Marquises qui ont été choisies pour cet exercice, ce n'est pas un hasard. Cet archipel représente un risque élevé, selon le responsable du laboratoire de géophysique de Polynésie, Stéphane Kema.
Les îles Marquises disposent d'un plancher océanique assez important avec des fonds avec une pente très très douce qui ont tendance à amplifier le tsunami. Contrairement au Tuamotu, où les pentes des atolls sont plus abruptes, du coup l'impact sur les Tuamotu sera moindre. Vraiment un phénomène d'amplification majeur au niveau des Marquises et de certaines baies aussi.
Après l'exercice hors sec tsunami, au tour des militaires donc de s'entraîner aux missions de soutien aux populations. Il s'agit d'évaluer leur capacité à intervenir rapidement en soutien à la population en testant la logistique et la coordination interarmée face à une catastrophe naturelle. Pas moins d'une centaine de militaires doivent embarquer aujourd'hui sur le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, le Bougainville, en direction des Marquises, donc pour un débarquement dans une dizaine de jours.
Ces révélations maintenant de Jérémy Flores, l'ancien champion du monde de surf se bat contre une tumeur au cerveau.
C'est dans un documentaire qu'il révèle sa maladie et raconte son combat, intitulé « Dos au mur » et réalisé par Julie et Vincent Kardasic. Le film revient sur son histoire, ses débuts en surf quand il a atteint le plus haut niveau, les compétitions du CT où il a remporté 4 étapes dont celle de Tahiti et puis sa retraite en 2021. Notamment pour raison de santé, de la fatigue, des maux de tête, il pense que c'est dû à des accidents de surf, mais des analyses plus poussées vont révéler une tumeur au cerveau. Il raconte évidemment ce diagnostic, le ciel qui lui tombe sur la tête, les larmes, les questions. Et puis l'envie de se battre. Il est opéré en 2022 et aujourd'hui sa tumeur est toujours là, mais bien plus petite. Il est sous surveillance et au journal Sud-Ouest, il dit qu'il vit au jour le jour et il espère le plus longtemps possible. S'il a décidé d'en parler publiquement aujourd'hui, c'est qu'il est prêt à se livrer, à se mettre à nu, comme il dit encore à nos confrères qui ont trouvé le documentaire très émouvant. On y entend Kelly Slater, Kaolivast, le père de Jérémy et puis sa compagne Inarani Delongeau, avec qui d'ailleurs ils avaient annoncé se marier bientôt. Dos au mur doit être diffusé prochainement sur Canal Plus Doc.
Et on finit en musique avec le chanteur et musicien Harry Mystic.
Il est parti hier pour les Pays-Bas. Il va rejoindre la compagnie Small Island Big Sound, composée d'artistes du Pacifique et de l'océan Indien. Comme lui, des passionnés de culture qui viennent de l'île Maurice, Madagascar, Papouasie, Australie ou encore de Taïwan. Ils vont se produire à l'occasion de l'un des plus anciens festivals internationaux des arts de la scène, le Holland Festival. Et ensemble, ils vont proposer un spectacle inédit intitulé One Ocean.
J'ai commencé à écrire un de morceaux pour le spectacle. Il y a toute une équipe de production qui va être avec nous pendant la création et les répétitions pour justement nous guider un peu sur la thématique globale du spectacle, quoi. Mais en gros, moi, je vais avec mes morceaux et en fonction de comment on arrive à créer ensemble, ben on choisit tel ou tel morceau. La dernière fois, c'est un peu comme ça, en fait, le premier spectacle qu'on a fait en 2024. Chacun venait avec ses morceaux et ensuite, on compilait les meilleures parties et ce qui va le mieux ensemble, quoi.
Rémy Tisch, enceint de son vrai nom, connaît déjà très bien ce collectif monté par le Taïwanais Bao Bao Shen et le producteur de musique Tim Coles. Il a déjà participé avec eux une tournée de 3 mois aux États-Unis en début d'année dernière et cette fois une seule représentation le 15 juin sur ce festival où 700 000 spectateurs sont attendus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour les informations. Maintenant, c'est la météo sur Radio.